Nadia et Jean-Michel, format A3.
C'est donc un parcours particulier pour notre première invitée. Après une première année scolaire difficile, elle est placée dans une classe spéciale, suivie par un orthophoniste et même une psychologue.
Elle se sent différente, incomprise, et c'est à 36 ans qu'elle décide d'aller voir un kinésiologue qui l'envoie chez un logopédiste. Là, le verdict tombe, elle est dyslexique et dysorthographique.
Et elle a décidé de témoigner et de raconter son chemin de vie. Oneida Catalfamo, bonjour.
Bonjour.
Vous avez quel âge aujourd'hui, si j'ose vous demander ?
45 ans.
Donc on vous a diagnostiqué cette dyslexie et cette dysorthographie à 36 ans. Ça fait 9 ans. Vous ressentez quoi au moment où on vous annonce ça ?
La nouvelle, il y a beaucoup d'émotions. Et en même temps, aussi... Un certain soulagement pour moi, dans le sens que de découvrir que j'ai bien quelque chose. Parce que tout le long de mon enfance, entre guillemets, je me suis un peu cachée, parce que je ne savais pas ce que j'avais, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je réfléchissais, je pensais différemment que les autres. Hein. Surtout dans le milieu familial aussi, avec... j'ai un frère, et ma mère et mon père, et c'est vrai que on se sent un peu mis de côté. C'est pas que les autres vous mettent de côté, mais dans la famille, je veux dire. Mais c'est vrai qu'on se met, on est un peu mis de côté, parce qu'on se trouve différent que les autres.
Mais il n'y a pas un moment où vous vous dites, mais c'est peut-être la dyslexie, ou comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe justement dans votre esprit ? Parce que il devait y avoir quelque chose qui vous posait ces questions, non ?
Alors oui, des questions, je m'en suis posée tout le long de mon enfance jusqu'au moment où j'ai su ce que j'avais. Je me suis posé plein de questions. Si c'était moi qui travaillais pas assez à l'école, est-ce que c'est parce que je suis trop flemmarde ou parce que j'ai pas envie de faire des choses dans ma vie ? Je me suis posé mille et une questions, mais de penser à ça, non, c'est vrai que je me suis jamais posé cette question-là.
Pourtant, lorsque vous étiez enfant, on l'a dit, hein, vous avez été suivi par différents spécialistes. Personne n'a détecté ces problèmes à ce moment-là. Vous leur en voulez, à ces spécialistes qui vous ont suivi quand vous étiez petite. Il y a un peu de rancœur en disant, mais purée, si je peux me permettre l'expression, purée, c'est à 36 ans qu'on découvre que j'ai ce problème qui aurait pu être traité et puis me faciliter la vie quand même pas mal.
Alors, c'est clair que, je sais pas, peut-être au moment que j'ai su que j'étais dyslexique, sur le moment-là, il y a une période, au moment que j'ai su que j'étais dyslexique, je commençais mon travail de mémoire pour avoir mon diplôme d'assistante socio-éducative. Et oui, là, cette période-là, maintenant, ça va. Je relativise bien les choses, mais je dirais que il y a une personne en particulier qui doit bien m'entendre maintenant, c'est ma mère. Ma mère, c'est vrai qu'elle s'est beaucoup battue pour moi, et c'est une femme qui n'a jamais lâché prise. Et voilà, maintenant, c'est clair que pour elle, c'était pas facile. Surtout, je suis née en 72, c'était pas autant évident pour elle d'affronter des fois certaines choses. Elle les affrontait très bien, elle se battait. C'est une personne qui a beaucoup de tempérament et je trouve que c'est important dans la vie d'avoir toujours une force au fond de soi-même. Mais elle, je pense, oui, elle en a beaucoup voulu.
Vous avez suivi la méthode Tomatis. On avait fait un reportage, notamment à la Chaux-de-Fonds. Je ne sais pas si c'est là que vous étiez. Vous pouvez rappeler en deux mots comment se déroule cette méthode Tomatis.
Alors, la méthode Tomatis, à l'époque, j'allais à Neuchâtel. Méthode Tomatis. Tomatis, je vous fais un petit résumé, il était ORL de base, déjà premièrement dans l'aviation aussi, il travaillait beaucoup avec les personnes qui voyageaient, qui faisaient des, des voyages en avion. Alors, Tomatis, il a commencé à comprendre dans le sens que il se disait l'oreille, c'est important dans la vie. Quand on est dans le ventre de sa mère, la première chose qui se développe chez le bébé, c'est l'oreille. L'oreille, c'est un atout important quand on est dans le ventre de sa mère. On entend tous les bruits, les yeux se développent plus tard et tout. Et ce qui fait qu'il a commencé à s'intéresser à ça en étant déjà au RL. Et après, en faisant son travail par lui-même, parce que c'était quelque chose d'innovateur à l'époque, et il a commencé à se dire, tiens, l'oreille, c'est important, qu'est-ce qu'il peut y avoir avec l'oreille et tout. Alors, en fait, si vous regardez votre oreille, à la forme du fœtus, la tête en bas, et après, ça continue, c'est la colonne vertébrale, les jambes, les bras et tout ça. Et puis, il s'est commencé à s'intéresser à ça, et il s'est dit... Tiens, qu'est-ce qui pourrait aller, en faisant cette méthode Tomatis, qu'est-ce qui pourrait aller comme musique ? Alors, il a fait des recherches, jusqu'au jour où il a trouvé la musique de Mozart. La musique de Mozart, c'est une musique qui est toujours en harmonie. Il n'y a jamais de pic, et ni de pic bas, et ni de pic haut. C'est toujours en harmonie continue. Et il a commencé à traiter, à travailler sur ça, et puis il a créé son propre bébé à lui, au fait, son projet. Et puis... Et en travaillant sur ça, il a commencé à traiter un peu sur les bébés, les adultes.
Jusqu'à 9h, format A3.
Et nous sommes de retour avec notre invitée, Oneida Catalfamo, qui souffre de dyslexie et de dysorthographie.
Son parcours est particulier. Elle a été diagnostiquée à l'âge de 36 ans.
Oneida Catalfamo, pourquoi est-ce que vous avez décidé de témoigner ?
Alors... novembre ou décembre 2017, il y a une amie qui parlait avec ma mère et ils ont discuté, ça faisait quelques temps qu'ils ne se voyaient plus. Et après qu'ils ont passé leur journée à se mémorer plein de choses et tout, elle lui a parlé, elle a voulu savoir mon parcours et tout, parce qu'au fait c'est une amie... qui m'a beaucoup soutenue dans le processus scolaire. Elle venait faire les devoirs après le travail. Elle venait à la maison, elle me soutenait, puis elle m'aidait pour travailler et corriger mes devoirs. Et puis, ben voilà, en décembre, elle est venue. Ils ont passé une journée avec ma mère, puis elle lui a dit « Ce serait bien qu'Oneida, elle puisse parler de son parcours et de parler pour se donner aussi un... Je pense ouvrir une porte pour elle, pour pouvoir s'ouvrir un peu et puis pouvoir témoigner, puis partager avec des gens, des enfants ou des adultes qui souffrent de ça. Et puis que peut-être que dans leur parcours, certaines personnes n'ont pas pu exprimer ou pouvoir dire ouvertement qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont. Et puis voilà.
Vous avez commencé à témoigner ce matin ici notamment, oui. Dans une classe à Bienne, oui. Également à la rentrée de janvier. L'accueil reçu dans cette classe par les enfants, par les enseignants, c'était important pour vous, ce moment d'échange et puis justement d'ouvrir ces portes ?
Oui, ça a été très bien, un très beau moment, émouvant et en même temps très riche et vraiment... comment je dois dire, une certaine ouverture d'esprit aussi, pour pouvoir communiquer avec les personnes et les enfants.
Vous allez continuer de témoigner autour de vous, c'est quelque chose d'important.
Oui. Là, j'ai contacté la radio à Bienne, Canal 3. Et puis là, ils m'ont dit que ça... Il faut que j'attende un ou deux mois, le temps qu'ils trouvent, qu'ils discutent entre eux, puis qu'ils puissent trouver un petit moment, porte ouverte, pour pouvoir aller me présenter. Puis là, j'ai envoyé un projet, le projet que je vous ai envoyé. Mm-hmm. Je l'ai envoyé à la direction des écoles à Bienne. Mm-hmm. Et puis, j'ai eu deux contacts, et puis des mails. Et là, j'attends qu'ils me contactent.